pense à toi, je t'écris. D'une trois étoiles à Cajun. Tu vois, faut pas que tu tombes ici. J'ai un toit et un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit. On ne manque presque de rien. C'est pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain à Paris.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Audio Radio 91.3 FM. Pour commencer, je me présente, je suis Chen et je ne suis pas seule sur le plateau. Je suis accompagnée de Ramon, May, Will, Siaka, Antoinette. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Après la culture française et la culture européenne, pour les deux derniers mois, on va vous parler de l'interculturalité aujourd'hui. L'interculturalité, c'est la rencontre de deux ou plusieurs cultures. Alors, qui mieux que nous pour parler de l'interculturalité avec nos cinq nationalités? Au début de ce mois, on a rencontré M. Lapesse. Il nous a amené à visiter la cabane du monde, un espace ouvert à toutes les curiosités et exigences de recherche dans le domaine de musique du monde. Le lieu est dirigé par Patrick Lapesse, journaliste collaborateur du journal Le Monde. À travers ses projections documentaires, interventions de musiciens, son conférence ou sieste musicale, il propose un choix de CD, DVD, livres et périodiques mis à disposition pour écouter, visionnage ou lecture sur place. Aujourd'hui, on visite la Rocher de Palmer, la cabane du monde. On rencontre M. Lapesse qui va nous parler un peu de ses expériences. Dans ce cas-là, on va passer un excellent moment de la sieste musicale avec lui. Bonjour Monsieur Lapesse, quel objectif a la sieste musicale?
Bonjour, alors l'objectif, la mission de la sieste musicale, c'est de faire découvrir le monde à travers sa musique, puisque la musique fait partie de la culture d'un peuple. Et ici, on essaie donc, à travers ces siestes musicales, de sensibiliser aux musiques du monde, donc aux cultures, aux ailleurs, qui ne sont pas ceux qui faisant partie de notre quotidien. Ce lieu, donc les cabanes du monde, dont Patrick Duval m'a confié la responsabilité, a été voulu par Patrick Duval pour être un lieu en résonance avec justement cette mosaïque de cultures qu'il y a sur le territoire de ce nom, puisque je crois qu'il y a 52 communautés différentes ici. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir un lieu en résonance avec cette mosaïque de cultures, de langues et donc de musique qui sont présentes sur le territoire de ce nom.
Et comment répondez-vous l'interculturalité au travers de musique du monde?
Le monde est vaste et à partir du moment où on approche des multiples cultures qui traversent le monde à travers la musique, eh bien on s'intéresse à toutes ces cultures qui sont chacune dans leur spécificité, qui se croisent souvent et qui inventent d'autres cultures en se croisant.
Qu'est-ce que c'est la culture d'après vous?
La culture, c'est savoir cultiver son jardin, c'est savoir regarder comment le voisin cultive son jardin, c'est savoir... La culture, c'est être ouvert pour moi, c'est avoir cette gourmandise pour l'autre, pour ce qui fait la spécificité de l'autre, c'est ça la culture. Quelqu'un de cultivé, pour moi, c'est quelqu'un de généreux, d'ouvert, de curieux.
Comment vous voyagez beaucoup dans le monde? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu par rapport à votre vécu?
Oh, mes voyages, oui, mes voyages multiples et variés, de fait de mes fonctions de journaliste dans le domaine des musiques du monde. Donc j'ai beaucoup bourlingué dans des coins où on ne va pas nécessairement en vacances. Je pense au Pakistan, je pense quand on pouvait encore y aller, je pense à l'Ouzbékistan, Madagascar. Donc j'ai beaucoup voyagé effectivement. Alors ce sont toujours des voyages très courts, ce sont des voyages dits de presse, donc pour faire un reportage. Mais dans la mesure où on a des personnes sur place qui nous guident, qui nous emmènent là où on doit aller pour rencontrer des artistes ou des expressions artistiques, eh bien on ne perd pas de temps et on est tout de suite plongé en découverte avec ces gens qu'on est venu découvrir et approcher ces artistes connus ou inconnus.
Nous vous rappelons que vous pouvez participer gratuitement à cette activité vous pouvez trouver plus d'informations sur le site internet www.lerocherdepalmer.fr ou en appelant 05 56 74 80 00. On a aussi rencontré M. Castellier, directeur adjoint de l'association Musique de Nuit, qui s'occupe des affaires du Rocher de Palmer. Il va nous présenter le Rocher de Palmer.
Alors, nous sommes à Roche de Palmer, de la musique de nuit. Et nous allons faire une interview avec un monsieur. Pour commencer, d'abord, monsieur, vous allez vous présenter.
Bonjour, je suis Hervé Castelli, directeur adjoint de musique de nuit.
D'accord, bonjour. Et pour commencer, comment est-ce que ça s'est créé l'association de musique de nuit et quels sont les buts?
Alors l'association s'est créée, que je dise pas de bêtises, en 1985. Elle s'est créée comme beaucoup d'associations avec au départ un groupe de passionnés qui ont envie de vivre une aventure ensemble, d'organiser des concerts de jazz. Et puis l'association, avec le temps et avec cette envie de faire partager le jazz, mais après des musiques, qu'on appelle assez rapidement des musiques du monde, s'est mise à grossir et à, autour de l'organisation de concerts, à imaginer plusieurs actions pour faciliter cette transmission via des ateliers, via des arbres à palabres, via des siestes musicales, des concerts chez l'habitant et autres, et plus particulièrement là où vivent les gens, dans les différents quartiers de l'agglomération bordelaise.
La rive droite a longtemps été véhiculée un message négatif. Et comment votre association a contribué à l'amélioration de l'image des rives droites?
Alors elle a contribué surtout pas seule, elle a contribué avec tous les acteurs du territoire de la rive droite, notamment tout le secteur associatif, tous les centres sociaux, toutes les bibliothèques, toutes les médiathèques, avec laquelle nous avons monté ensemble des actions autour de la diversité musicale. Et toutes ces actions, en fait, petit à petit, depuis 20 ans, ont construit, nous semble-t-il, une autre image qui aujourd'hui se caractérise avec l'arrivée d'un lieu comme le Rocher de Palmer, depuis septembre 2010, où finalement, c'est une espèce d'une caisse de résonance de tout ce qui a pu se créer depuis une vingtaine d'années et de continuer surtout à faire vivre tous ces projets où on rencontre la culture et la musique de l'autre.
Ok. Et alors, je veux savoir dans quelle mesure le Rocher de Palmer a créé un lien entre la rive droite et la rive gauche.
Super question. Question que l'on se pose tous les jours et que l'on continuera à se poser. C'est-à-dire comment faire en sorte qu'un lieu aussi prestigieux que le Rocher de Palmer, enfin, comme vous avez vu dans la visite, très, très particulier au niveau de l'architecture, puis j'espère de ce qui s'y passe dedans, comment ce lieu peut séduire un public qui vit de l'autre côté de la Garonne, qui a l'habitude de fréquenter d'autres salles culturelles, dans le centre-ville ou sur la rive gauche, comment il peut venir au Rocher intrigué, intéressé par la programmation, mais comment surtout aussi faire en sorte que cette programmation intéresse avant tout nos voisins, les gens qui habitent sur la rive droite. Donc c'est vraiment l'objectif avec une programmation très large, séduire un maximum de public des deux rives, sachant que chacun a ses particularités, mais c'est de la rencontre entre tous ces publics que crée la richesse d'un lieu comme celui-ci.
Ok, c'est bon. Et après, comme le Rocher de Palmer favorise les rencontres entre les différentes cultures.
Alors, on fait ce que d'autres font aussi depuis plusieurs années, hein, c'est-à-dire que à travers l'organisation des concerts, à travers l'organisation des ateliers, à travers l'organisation de rencontres entre des artistes et des publics, on pense que c'est là que l'on crée du dialogue, que l'on crée de la rencontre entre des cultures différentes. Et tous ces échanges, encore une fois, on insiste beaucoup là-dessus, ne pourraient se faire sans tous les partenaires. Je pense ici aux animateurs socioculturels, aux éducateurs, aux enseignants, aux gardiens d'immeubles, qui eux, ont créé un rapport de confiance avec des publics, que ce soit des scolaires, que ce soit des personnes souffrantes, soit des personnes qui sont au chômage, qui ont connu des accidents dans leur vie. c'est grâce à eux et avec eux que l'on arrive à monter ensemble des actions pour que toutes ces personnes qui n'ont pas forcément l'occasion de rencontrer régulièrement des artistes puissent être mis en contact avec des artistes et puissent de cette rencontre sortir un petit peu, s'évader de leur quotidien, découvrir d'autres façons de voir le monde, d'autres cultures, et c'est comme ça que les uns et les autres on s'enrichit.
Ok, merci.
Concernant la dernière question, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples positifs ou négatifs des rencontres qui ont lieu ici dans les centres de la recherche?
Alors, un exemple super positif, récent, je pense à un projet qui s'appelle, une action qui s'appelle Avoir retrouvé, que l'on a mené avec le centre social La Colline, à ce nom, en partant des cours de français pour primo-arrivants et personnes étrangères qui, le jeudi matin, donc, apprennent ou consolident leur notion de français. Et avec eux, on a travaillé sur une sorte de chorale du monde pour chacun à chanter des chansons de son pays. C'était assez magique. Il y a à peu près une cinquantaine de nationalités représentées, de la Côte d'Ivoire au Pakistan, en passant par l'Ukraine et plein d'autres pays dont j'oublie. Et au final, on a retenu 4 chanteurs et chanteuses. Un jeune homme d'origine congolaise, un Algérien, une dame plus âgée de Guinée-Conakry et une dame du Vietnam qui ont passé 4 mois au Rocher, alors pas 4 mois en continu, qui ont enregistré leurs propres chansons au Rocher dans des conditions professionnelles et qui donnent lieu au final à une installation qui est dans le hall du Rocher où l'on peut découvrir en tapant sur des boîtes les voix de ces pays. Et derrière, il y a tout aussi une histoire des parcours de ces personnes. Donc, que l'on partage de façon permanente. Donc là, et concrètement, tous les gamins qui viennent dans la journée écouter des siestes, participer à des siestes musicales, passent devant cette installation, tapent sur les boutons, des fois un peu fort d'ailleurs, ils en ont cassé quelques-uns, et passent 5 minutes au Congo, passent 5 minutes en Algérie. Et voilà, c'est une façon de voyager par la musique. Ça, c'est un bel exemple de côté positif. Pour le côté négatif, il n'y en a pas. Non, il y en a, tout n'est pas parfait, bien sûr. Et c'est aussi grâce à des projets qui ont moins bien marché que l'on arrive à progresser pour les prochains.
D'accord. Et pouvez-vous nous dire comment c'est la... Et comment choisissez-vous les artistes qu'ils viennent jouer au Rocher de Palmiers?
Alors, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est le directeur programmateur historique de l'association, Patrick Duval. Qu'il est choisi selon plusieurs critères. C'est-à-dire que sur une année, il y a vraiment la volonté qu'un peu toutes, quasi pas toutes, c'est impossible, mais qu'une grande majorité des musiques soient représentées dans la programmation. Même s'il y a une dominante autour du jazz, autour des musiques du monde, c'est-à-dire plutôt des musiques du Maghreb, d'Afrique de l'Ouest, d'Amérique du Sud, des Balkans. Mais il y a aussi de la chanson, il y a aussi de la musique classique, il y a aussi des soirées électroniques, il y a aussi du pop, il y a aussi du rock, du folk, du reggae. Donc il veille à ce que toutes ces musiques, la musique contemporaine, soient représentées dans la programmation. Je crois qu'à part du métal, c'est le seul type de concert qu'il n'y a pas encore eu au Rocher. Après, comme on en parlait tout à l'heure en aparté, il y a des critères économiques qui expliquent une partie de la programmation. C'est-à-dire que sur un certain nombre de concerts, on organise entre 100 et 120 concerts par an, au Rocher, mais aussi dans d'autres salles. Il y a un équilibre entre des concerts dont on sait très bien qu'ils ne vont pas réunir une foule inconsidérée, et d'autres, par contre, qui vont, comme on dit dans notre jargon, très bien marcher, qui vont faire vite complet. Donc la plus grande salle du Rocher, c'est 1200. Mais on est aussi fiers de concerts qui ne réunissent que 50 personnes. Donc, c'est important de continuer à faire vivre, à défendre ces musiques. Et donc c'est un équilibre dans la programmation entre des concerts qui fonctionnent très très bien, qui permettent de prendre des risques sur des concerts dont on sait très bien qu'ils vont réunir un peu moins de monde. Puis il y a aussi le soutien des collectivités, des services de l'État qui permettent de maintenir ces risques dans la programmation autour des musiques au pluriel.
D'accord, merci.
C'est bon ? Et on sait que maintenant, le monde existe beaucoup dans la musique, mais d'après vous, quel est le rôle de la musique dans notre vie ?
Fondamental. Et la musique, comme d'autres formes d'art, mais la musique en particulier, elle est présente partout, tout le temps, à tous les âges, partout dans le monde, et quel que soit son parcours, son milieu d'origine, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, on écoute tous de la musique tous les jours, alors certains pas assez à notre goût. Et je crois que c'est un des avantages, c'est vraiment un côté universel quoi, de cette forme d'art, et c'est pour justement faire découvrir d'autres cultures, d'autres modes de vie. Je crois que par la musique passe énormément de choses. Et notre souci, mais nous et avec plein d'autres partenaires, c'est de titiller les gens pour écouter toujours plus de musique et toujours plus de musique différente. Après, chacun a ses goûts, et heureusement. Mais plus on les élargit, mieux c'est.
Et on sait que la musique n'a pas de frontières. Voilà. Et quels sont vos projets pour l'avenir ?
Alors, il y en a à peu près toutes les 3 minutes des projets. Le tout, c'est de faire en sorte de ne pas trop en avoir au même moment. Non, les projets pour l'avenir, ils sont nombreux dans le rocher et en dehors des murs. Ils sont pour essayer aussi de toujours continuer à inventer avec les partenaires. C'est-à-dire qu'on fait des choses, mais demain, on peut en imaginer d'autres. On peut en imaginer d'autres en s'inspirant de ce que font les autres. Donc, c'est très important de bouger, d'avoir la chance aussi de pouvoir bouger, d'aller voir ce qui se passe à Belfast, d'aller voir ce qui, je pense à des exemples, des projets en cours, hein, d'aller voir ce qui se passe à Porto, d'aller voir ce qui se passe en Afrique du Sud, mais aussi d'aller voir ce qui se passe à Lorbon, à Florac, parce qu'il se passe aussi plein de choses intéressantes à côté, et de se nourrir des expériences des autres, de monter des collaborations avec d'autres, parce que je crois qu'on crée pas de nouvelles choses tout seul. Et puis on crée aussi toujours à partir de ce qui existait ailleurs. Alors Internet est un formidable outil pour voir ce qui se passe ailleurs, mais c'est quand même bien de continuer à se déplacer et aller voir ce qui se passe dans d'autres pays, parce que c'est comme ça qu'on apprend beaucoup.
Merci beaucoup pour M. Castel. Maintenant, je vais passer la parole à Antoinette. Elle va nous parler de la musique de son pays.
Oui, merci Sean. Il est dit que la musique est la médecine de l'âme. Certaines personnes écoutent de la musique pour éliminer le stress ou la pression, ou simplement pour éviter de se sentir seul. Il y a ceux qui écoutent la musique pour retrouver leur pouvoir ou leur motivation après une longue journée de travail ou d'études. Mais quelle soit la raison, la musique est considérée comme la première forme d'art et est devenue une partie essentielle de la vie humaine. En Jamaïque, notre musique est le reflet de qui nous sommes et ce que nous ressentons, ce que nous en ferons et nous motive. Il s'agit d'une manifestation artistique de nos espoirs, nos rêves et aussi la réalité de nos vies. La Jamaïque est le melting pot de nombreuses cultures différentes et avec les années, notre musique a évolué en quelque chose de vraiment spécial. C'est maintenant une collaboration entre les cultures dont nous sommes très fiers. En fait, la devise de notre pays est « out of many one people », ce qui signifie que nous sommes construits de beaucoup de cultures différentes, mais nous avons devenu un. Et cela est évident dans notre musique.
Merci Antoinette. Vraiment, la musique réunit tout le monde. Maintenant, je vais vous passer une musique classique chinoise qui joue par l'instrument erhu, racontant une histoire d'amour. Il s'agit de deux amoureux séparés par leur famille et la société féodale.
Thank you.
Également, un autre intervenant, M. Guy Lenoir, travaille dans une association MC2A, Migration culturelle Aquitaine Afrique. Il nous a parlé de certaines choses par rapport à la colonisation, la décolonisation et la néocolonisation. Alors, Siaka, on sait que ça existe beaucoup de l'histoire de la colonisation en Afrique. Est-ce que tu peux nous en parler un peu pour ta part?
D'accord. La colonisation, et si la colonisation française expliquait l'actuel état des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, ces pays n'arrivent pas à se développer malgré l'immense potentialité des richesses du sous-sol. Les conflits ethniques et frontaliers, on estime que 70% des frontières africaines telles qu'on les connaît aujourd'hui furent définies sans concertation avec les populations concernées. Il y a des peuples qui ont du mal à vivre ensemble. Et le climat genre nord-ouest, sud, en Côte d'Ivoire, le problème du Casamance au Sénégal, le problème nord-sud au Mali, en sont des exemples parmi d'autres. Donc,
Merci Aka. Alors Will, tu me dis que tu as une grande histoire de famille à nous raconter, on t'écoute.
Oui, bonjour Shan, merci. Alors je vais vous raconter une histoire, une petite histoire. Alors, un beau jour, un parfait inconnu, étranger, vous rend visite. Il va habiter chez vous, vous convaincre qu'il a le droit et qu'en échange, il vous aidera à rénover votre maison. Et lors de cet instant de confusion et d'effarement, l'inconnu à l'allure de galant homme retire un revolver depuis l'étui en cuir suspendu à sa ceinture. Il pointe le canon sur votre front et la peur monte en vous. Car vous ne savez, vous ne connaissez ni la puissance de cette arme, ni ce que cet inconnu est capable de vous faire subir pour parvenir à ses fins. Alors vous n'avez pas d'autre choix que d'obéir à ses ordres. Donc cette histoire resterait banale s'il n'y avait pas cette suite. Les années ont passé, cet étranger a reconnu ses erreurs, il apprend à vivre en paix avec vous, échange son savoir avec vous et sa famille. Et la vôtre sont devenus de très bons amis. Je viens de vous résumer l'histoire de la colonisation du Vietnam par les Français.
Après le départ des Français au Vietnam, le pays se redresse petit à petit, même si des guerres civiles et l'invasion des Américains s'étendent. Quel rôle joue-t-il la francophonie au Vietnam?
Alors, la francophonie au Vietnam joue un rôle assez important pour le développement de l'économie du pays. C'est une francophonie peu visible, mais active. Elle permet au pays de s'intégrer à la mondialisation. De nos jours, la francophonie au Vietnam se reconnaît dans de différents domaines de l'activité, comme éducation, des classes bilingues NV1, NV2 à l'option. Dans différentes formations, par exemple, des centres et des instituts français, Alliance française, centres culturels français, des centres de formation d'interprètes et de traducteurs. Mais avant d'arriver à ce stade, la culture française et la langue française étaient considérées comme la langue des ennemis. Peu de gens l'apprécient et la soutiennent. Après la guerre, le développement du pays nécessite la communication et les échanges, et la francophonie au Vietnam réussit à trouver sa place. Donc les médias et la littérature française commencent à trouver leur public, notamment pour les jeunes étudiants et étudiantes, qui sont avides de découvertes et de savoir. Des anciennes personnes, quant à eux, ont encore beaucoup de mal à accepter ce changement.
Alors, il me semble que tes parents sont issus de cette génération. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'histoire personnelle de ta famille?
Alors oui, en effet, mon grand-père paternel travaille en tant que médecin pour l'armée française pendant la colonisation des Françaises. De l'autre côté, mon grand-père maternel travaille en tant que secrétaire pour le gouvernement vietnamien. Et l'idée que sa fille tombe amoureuse d'un garçon issu d'une famille qui travaille pour le camp adversaire ne lui plaît guère, bien entendu. Donc mes parents sont un peu obligés de se fréquenter en cachette. Et puis avec le temps, la modernisation du pays et le renouvellement des idées, mes grands-parents ont compris que la culture française n'a jamais été la cause de la guerre. Ma part, je pense qu'il vaut mieux faire la part des choses entre la culture, le savoir d'un pays et les arts qu'il commette. Cela faisait 10 ans que je vis en France avec mes parents, et je pense que c'est une chance pour moi de pouvoir me baigner dans ces deux cultures si différentes de loin, mais si humanisme et si commun finalement. Voilà, je te remercie, Chan.
Merci, Will. Et la langue est un pont qui associe les différentes personnes, mais si on rencontre les gens sans connaître notre propre langue, comment peut-on communiquer? Je vais passer la parole à May, elle va nous raconter une histoire de la communication non verbale.
Ok, merci. Maintenant, je vais raconter une histoire. Comme nous savons, chaque pays a sa langue. On produit les langues pour la communication, mais s'il y a des gens qui viennent des pays différents, et elle parle les langues différentes, comment faire? Quelques jours avant, j'ai une amie qui vient de Chine. Elle parle chinois et l'anglais. Quand nous avons eu notre dîner, j'ai rencontré une autre amie qui vient d'Afrique, Siaga. Et Siaga, elle parle français, donc je dois travailler comme traductrice. Il y a quelqu'un qui m'appelle, donc je les ai laissés et je suis sortie pour parler plus au calme. Mais maintenant, j'ai un peu inquiétude. Comment elle communique? Mais après, je suis retournée. J'ai trouvé que c'était bizarrement. Elles sont contentes sans moi. Elles ont ri et elles ont parlé avec les mains. Quel drôle de situation. Donc, vous voyez, c'est, nous avons pas la même langue que les autres. Ce n'est pas grave. Les mots ne sont pas obligatoires. Le sourire, ça suffit. Mais maintenant, cette fille qui est rentrée en Chine, c'est un gars. Elle lui manque?
Ah ben oui, bien sûr. Elle me manque. J'espère que l'année prochaine, elle okay. va revenir. Ou moi, je vais aller la voir quand même.
Bien super.
J'irai voir en Chine.
Merci vous deux. Haman, qu'est-ce que tu penses de comprendre l'autre pour se comprendre soi-même?
C'est ce que je pourrais dire, c'est que depuis les dernières années, notre façon de communiquer entre nous, nos amis, notre famille et le monde, a complètement changé. Au début, c'est grâce à l'Internet que l'on a pu avoir des informations en temps réel et la connaissance à la portée de nos mains. Cependant, dans ces dernières années, on a vu comme les réseaux sociaux ont ouvert encore plus cette forme de communication, ce qui est en train de nous donner une identité pas seulement nationale ou continentale, sinon mondiale.
Mais qu'est-ce qu'avoir une identité commune?
La première chose qui vient à l'esprit est mon identité nationale, ou plutôt je devrais dire mon identité coloniale, car en tant que Chilien, mon identité provient de l'Espagne, de l'Europe, de la colonisation de l'Amérique latine par les Espagnols. Pedro de Valdivia a exploré depuis 1540 le nord du Chili et puis descendu le sud du pays en arrivant à Santiago du Chili, où il décidait de s'installer momentanément pour continuer son expédition de conquête au sud du Chili, tout en continuant la recherche d'or et de richesses. Son expédition a été marquée par des massacres, des viols, des vols, sans aucune impunité, approuvée par les rois d'Espagne et même par les papes. Cependant, Pedro de Valdivia a construit la base de la société chilienne et de la capitale du Chili, Santiago. Par exemple, au niveau de l'architecture, les maisons de la bourgeoisie ont été construites selon les paramètres classiques espagnols. Également, la distribution des maisons sur les territoires et l'emplacement des institutions, entre guillemets publiques, était la copie conforme du modèle espagnol de l'époque. Les conquistateurs n'ont pas seulement volé, massacré ou tué au nom du roi et de l'Église, mais ils ont également imposé leur modèle de société.
Et est-ce que tu peux nous parler de ces colonisateurs?
Oui, bien sûr. En étudiant plus en détail l'histoire de ces colonisateurs et ses façons d'agir envers ces nouveaux mondes, j'ai pu découvrir une histoire cachée et souvent négligée concernant mon pays et ses habitants. C'est pour cela que j'ai eu une grande haine vers eux, ainsi que de la peur. Ces sentiments se mélangeaient sans fin. J'ai dans mon esprit le désir de les affronter un jour et leur demander « Pourquoi ? Qu'est-ce que mon pays vous a fait pour que vous ayez volé et massacré sans pitié ?» J'avais besoin d'entendre de leur part un « Nous sommes désolés » ou « Pardonnez-nous ».
Est-ce que tu as encore ces sentiments ?
Ces fantômes ont disparu depuis l'année dernière, car j'ai fait face à ces préjugés en allant en vacances au sud de l'Espagne, plus précisément à Séville. Cette décision n'était pas du tout facile parce que pourquoi j'irais en Espagne, le pays qui a volé beaucoup de richesses à mon pays, et en plus pour aller passer des vacances. Heureusement, j'étais accompagné pour une grande amie qui m'a encouragé à réaliser ce voyage et m'a encouragé. Et c'est grâce à ce voyage que j'ai pu voir l'Espagne, le pays colonisateur, comme un pays avec des êtres humains et rempli de diversité. C'est en Espagne que j'ai vu un peuple avec des problèmes comme les miens, des gens qui, malgré leur histoire de leur pays, essayaient de faire leur mieux pour s'en sortir, des enfants avec les mêmes yeux que celles de mes petits frères. Donc, je me suis posé la question suivante, comment dois-je réagir face à cette situation? Je veux dire, j'étais en face des méchants, en face des colonisateurs, mais c'est ce que je voyais, c'était des personnes, des connaissances et même des amis. Voilà ma interprétation, voilà mon nouvel problème.
Et comment tu as réagi face à cette situation?
Face à cette situation, j'arrivais à la suivante conclusion. Même si on a un passé dur, même très dur, c'est du passé. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il faut l'oublier. Surtout pas, car si l'on oublie notre passé, nous répéterons les mêmes erreurs. Mais nous devons nous rendre compte que dans le pays que l'on considère comme des anciens ennemis, ou avec lesquels on a eu un passé conflictuel, habitent des personnes, des familles et des enfants qui n'ont aucune culpabilité par rapport à ce qui s'est passé auparavant, et que l'unique chose qu'ils veulent, c'est de cohabiter ensemble dans ce monde qui, chaque jour, écarte ses frontières physiques.
Le nom de famille nous accompagne depuis qu'on est né, et chaque nom a sa propre histoire. Maintenant, Antoinette et May vont nous parler de l'histoire de nom.
Merci. C'est pas Antoinette. Hein.
Antoinette, désolée.
Je répète.
Antoinette.
Je répète.
Antoinette.
D'accord.
Antoinette. Merci.
Maintenant, Antoinette.
Alors, on continue. Antoinette.
Maintenant,
c'est
Antoinette
rigolo.
Et May. Maintenant, Antoinette et May vont nous parler de l'histoire de nom.
Merci. Avez-vous remarqué que chaque fois que nous apprenons une nouvelle langue, généralement, la première chose que nous apprenons, c'est comment demander à quelqu'un son nom et comment réagir si on vous posait la même question. Mais pourquoi nos noms sont si importants? Notre nom de famille, pour être plus précise. L'utilisation de noms de famille est fréquente dans de nombreuses cultures à travers le monde. Chaque culture a ses propres règles quant à la façon dont ces noms sont employés. Le nom est utilisé pour représenter la ligne patrimoniale comme une signe de respect ou de fin juridique, par exemple. Quelle soit la raison, nous passons notre nom à famille de génération en génération depuis des centaines d'années. L'utilisation de noms de famille date de 5000 ans en Chine sous le régime de l'empereur Fuzi. C'est comme ça, mais... Ok. Il est apparu en Europe au 5e siècle à Rome, mais était réservé aux seuls nobles. Il a fallu attendre le 12e siècle pour que les gens ordinaires puissent avoir des noms de famille.
Le nom de famille a été adopté en 1539 par la France lorsque François Ier a créé le premier système d'état civil. Et toi, May, est-ce que tu connais l'histoire de ton nom?
Ah oui, mon nom est Zhao. Tu sais, c'est un très connu en Chine parce qu'il est le nom du roi ancien. Un jour, Zhao le roi a décidé qu'en Chine, ce nom était seulement pour ses descendants. Quand j'étais petite, mon grand-père m'a dit « Nous sommes des descendants du roi. » Donc maintenant, tu parles avec une princesse. Et je sais, ton nom est Ming, c'est ça?
Oui.
Oui, elle a l'air d'un nom chinois aussi.
Ah oui, il est en fait chinois, ce qui signifie brillant. La dynastie Ming est considérée comme une grande époque dans l'histoire de...
l'histoire humaine?
Oui, il est en fait chinoise. Ce qui signifiait brillante. La dynastie Ming est considérée comme une grande époque dans l'histoire humaine.
Ah, super. Donc toi, tu es une princesse aussi?
Merci beaucoup.
Oui. Et mon prénom, c'est Mei. En chinois, c'est fleur du prunier. Elle s'ouvre au printemps parce que mes parents, j'espère, je peux grandir forte. C'est le meilleur vœu que mes parents ont fait pour moi. Chaque fois, je me présente comme ça. Et moi, je ne suis pas une jolie fée, mais je suis forte.
C'est pas vrai. Elle est très jolie, hein?
Merci.
Et mon nom, Antoinette, est un prénom français qui signifiait louable. C'était le prénom de la reine Marie-Antoinette.
Ah, quel nom magnifique! Donc, ton nom, c'est un mélange des mots qui viennent de pays différents.
Et oui.
C'est ça?
Oui.
Donc, tu as trouvé que les noms, ce ne sont pas les lettres seulement, elles sont aussi toute une culture.
Ah oui, on peut trouver des sens riches et des histoires dans les noms.
Merci beaucoup de nous suivre aujourd'hui. C'est la dernière émission pour notre groupe. On a grand plaisir de vous accompagner ces 3 mois dans le champ de la culture. Je suis très contente de participer à ce programme avec vous. Il me semble comme une famille. On fait des échanges à travers des cultures différentes. Et pour vous, qu'est-ce que vous gardez pendant ces 3 mois avec les différentes cultures?
Parce que quand je suis venue en France un mois seulement et j'ai participé à ce projet, donc pour moi, je connais beaucoup d'amis comme Ville, comme Siaga et comme Haman qui vient les autres pays. Et oh, pardon, et aussi Antoinette.
Ça, c'est vraiment triste, hein?
Oui, je suis désolée. Et oui, oui, et aussi Chan.
Il connaît que le garçon.
Ah, mais oui.
Pardon. Et après aussi, je peux augmenter mon français et aussi je connais beaucoup de cultures du français et cultures européennes. Oui, parce que je suis très contente de vous connaître. Et vous?
Pour moi, c'est une vraiment belle expérience. Je rencontre des amis qui... je vais garder pour toute ma vie, j'espère. C'est un peu triste.
Il faut dire que ça a été beaucoup plus enrichissant pour moi. J'ai beaucoup appris des cultures différentes et je crois que je connais beaucoup de choses sur la Chine maintenant. mais a eu à me dire beaucoup sur la Chine et bon, je connais. Le Vietnam aussi, je connaissais très peu, à part le riz. Mais ben, avec lui, là, j'ai beaucoup appris sur le Vietnam. La Jamaïque aussi. Avec Antoinette, j'ai appris des choses que je ne connaissais pas. Avec Raymond, la Chili aussi, qui m'expliquait comment ça se passe là-bas. Voilà, bon. Avec des différentes cultures, ben, moi, sincèrement, je suis satisfait.
Et tu as vu, là?
Oui, moi, en tout cas, je ne sais pas quoi dire parce que ça va rejoindre ce que vous avez dit. J'ai connu des amis, j'ai connu Déborah, Marine, Jacques, Marie-Claire, toutes les personnes. Il y a beaucoup de choses. Donc, permettez-moi de résumer en une seule expression et ça sera famille. Voilà, c'est le mot que je retiens et que je voulais donner à cette expérience de 3 mois.
Je suis d'accord.
Merci tout le monde, ne pleuve pas. Oui, mes amis, merci. Non. Et alors, vous pouvez également trouver nos anciennes émissions en podcast sur le site internet www.autoradio.net sous l'onglet FEI, Fonds européens d'intégration. Si vous voulez savoir plus, vous pouvez feuilleter directement le journal L'Écho des Collines. On espère que vous suivrez le prochain coup en juillet sur le sujet de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de la relation de l'entreprise. On a créé des paroles à partir d'une chanson chinoise très connue, Peng Yao. En français, il s'appelle Ami. C'est un souvenir pour notre amitié.
C'est fini, mes amis, mes passions. L'amitié est sans fin. Tu ne seras jamais seul. Les amis, c'est fini, mes amis, mes passions. L'amitié est sans fin. Tu ne seras jamais seul. Et demain des l'avenir nous attend, le bonheur qu'on partage. Et demain des opales nous partons pour l'horizon. Ton chemin, mon chemin, recroisons un jour proche.
Bonjour à mes deux meilleurs amis, Denise et Mathieu, je t'aime.
Je vous aime tous, Will, Sean, Raymond.
Merci,
merci encore, mon père.